18-20.
Ce sera le tout premier texte présenté au Conseil des ministres et à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur la moralisation de la vie publique. Texte porté par François Bayrou, qui en a fait, vous le savez, le cœur de son alliance avec le président Emmanuel Macron. Et le garde des Sceaux veut frapper vite et fort. Tout doit être bouclé avant les législatives des 11 et 18 juin. Les consultations ont donc démarré cet après-midi. Une douzaine de propositions déjà sur la table. Interdiction par exemple à tout élu ou ministre d'embaucher un membre de sa famille. Interdiction à tout parlementaire d'exercer en parallèle des activités de conseil. Il s'agit d'éviter les conflits d'intérêts. Ou encore obligation d'avoir un casier judiciaire parfaitement vierge. Mais cela sera-t-il suffisant pour rétablir le lien de confiance entre les Français et leurs élus? Qui contrôlera qui et avec quels moyens, quels pouvoirs? On pose ces questions ce soir et on attend toutes les vôtres, vos commentaires au 01 45 24 7000 sur internet franceinter.fr et sur Twitter, hashtag Telson.
Michaël Thébault, le téléphone sonne.
Et au standard de France Inter, c'est Régis à Chambéry qui ouvre ce téléphone sonne. Bonsoir Régis, nous vous écoutons.
Oui, bonsoir. Je voudrais vous faire part de mon témoignage, car si certains poids lourds de la politique et les affaires qui ont été très médiatisées discréditent toute la classe politique, je voudrais préciser que c'est loin s'en faut l'ensemble des députés qui sont dans ce cas-là, et certains le font au service de tous avec admiration. Je veux par exemple citer notre député de Savoie de Chambéry sortante qui n'a fait pour l'instant qu'un mandat et qui a distribué toute sa réserve parlementaire à des associations soit caritatives, soit au bénéfice de la jeunesse ou des personnes âgées. Voilà mon témoignage.
Mais merci Régis, ça pose d'emblée effectivement la question. On va pas mettre tous les politiques dans le même panier, rassurez-vous. Pour vous répondre, Régis, avec nous Thierry Mandon, ancien secrétaire d'État à l'enseignement supérieur à la recherche. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Fabrice Arfi, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste responsable du pôle enquête à Mediapart. Je me tourne vers l'ex-politique Thierry Mandon d'abord. Qu'est-ce que vous répondez, Régis ?
Qu'il a raison. La mode est à la critique systématique de tous les élus et finalement à la régénération de la politique par quelque chose, une sorte de réservoir magique dont disposerait le pays dont il s'est pas servi, qui s'appelle la société civile. Choses sont beaucoup plus complexes que ça et heureusement, il y a beaucoup d'élus à tout niveau, locaux, nationaux, qui sont des gens remarquables, honnêtes, dévoués. Et c'est ça la classe politique française. Après, il y a des comportements inadmissibles qui méritent d'être sanctionnés. Peut-être plus qu'ils ne l'ont été par le passé. Et enfin, si on veut vraiment faire de la moralisation de la vie publique, il ne faut peut-être pas s'arrêter aux élus. Il faut peut-être regarder plus généralement un certain nombre de pratiques, tant dans l'administration que parfois même dans la vie des entreprises. Enfin, donc c'est un sujet très sérieux. Il faut jeter l'opprobre envers personne, se rendre compte qu'il en va de l'intérêt public que de se poser calmement ces questions.
Fabrice Arfi.
Non mais moi je souscris à ce qu'a dit l'auditeur et Thierry Mandon. Évidemment le sous-texte de cette première intervention, c'est le venin du tous pourri contre lequel il faut absolument lutter. Je fais partie de ceux qui considèrent que ce mot que je n'aime pas de transparence, que je pense qu'il est créé et utilisé par ceux qui n'en veulent pas, comme si on voulait voir au travers des gens. Je préfère le terme qui était celui des débats d'assemblée pendant la Révolution française, mais qui a été capté depuis par la valeur marchande, mais c'est la publicité. C'est-à-dire ce qui appartient au public, ce qui nous appartient à tous. Et l'information est aussi quelque chose qui appartient à tous. C'est le meilleur moyen, la transparence, de lutter précisément contre le soupçon, contrairement à ce qui est souvent dit, c'est une question de degré ensuite. Mais sur le principe, le soupçon, il est toujours puissant et errant quand il est entouré de mystères et de secrets inutiles. Et précisément, c'est quand on est dans un moment de bascule. Alors, est-ce qu'on va assez loin? Je pense que non. On est dans un problème d'écosystème général. En effet, c'est pas que les élus, c'est un écosystème de toute la société française. Les élus, la haute administration, les entreprises, les multinationales, nous sommes tous concernés par ce dont il est question derrière. Et on va voir ce qui va se passer avec le nouveau gouvernement. Dans le programme de M. Macron, en réalité, il n'y avait pas énormément de choses. sur cette question. Il y avait des intentions très louables. Monsieur Bayrou, je suis persuadé de sa sincérité dans la volonté de faire une
On sent qu'il y a une vraie volonté réforme. Là d'agir et vite.
Absolument, mais après on y reviendra peut-être. Et il y a, pour l'instant, de ce que je vois, des angles morts qui sont absolument essentiels pour ce qu'on appelle moraliser la vie publique.
Sur le terme de transparence, Thierry Mandon, c'est un terme aussi qui vous gêne ou pas du tout, vous l'acceptez ?
Non, c'est pas gênant. C'est pas forcément le mot le mieux choisi au sens où on sait, on comprend comment, par quoi ça doit commencer. Un certain nombre d'éléments d'information du grand public. Le mot publicité me va très bien. La question de la transparence, c'est ça s'arrête quand et comment ?
Où on met le curseur ?
Et là, pour le coup, les choses sont pas très claires. Donc c'est ce qui me gêne avec ce mot. Et puis, encore une fois, les problèmes de règles plus exigeantes, plus transparentes dans la vie publique, ça ne concerne pas que les élus. Le problème en France, ce n'est pas les élus, c'est la vie publique. Et ce n'est pas tout à fait la même chose.
Alors, on n'a pas encore, évidemment, ce projet de loi, puisque là, il est en cours d'élaboration, mais on a déjà quelques mesures fortes, et on va les détailler jusqu'à 20h. On repart au standard. Ferdinand nous appelle de Soissons. Bonsoir, soyez le bienvenu, Ferdinand.
Bonsoir, monsieur.
On vous écoute.
Bon, bah écoutez, j'avais des suggestions, mais la première. Bon, un président de la République peut-être se fait élire pendant 2 mandats. Les sénateurs, les députés et les maires devraient faire la même chose.
Oui ?
2 mandats seulement.
2 mandats seulement. Pourquoi vous jugez, vous estimez que c'est une bonne solution ?
C'est une bonne solution parce que vous vous souvenez, je me souviens, tout le monde se souvient d'un avionneux qui était député jusqu'à 80 ou 100 ans et qui ne mettait jamais les pieds. Il faut laisser la place aux autres et qui ont aussi des idées nouvelles.
Très bien, Ferdinand, je soumets votre proposition à notre duo. Dans ce projet, il y a donc interdiction là de plus de 3 mandats identiques successifs. Bonne, mauvaise idée, Thierry Mandon ?
Plutôt bonne idée. Je pense que 3, c'est bien. Ça me semble en tout cas nécessaire de limiter dans le temps l'exercice des mandats. Je vois que pour la prochaine élection législative, un certain nombre de grands partis, enfin qui étaient grands avant la présidentielle, ont investi des parlementaires, des députés, réinvesti des députés, qui ont été parlementaires pour la première fois en 78. Je crois quand même qu'il faut être raisonnable. Il ne faut pas s'étonner que les Français soient un peu énervés quand on a ce type de pratique.
Fabrice Arfi ?
Oui, ça fait partie des assainissements souhaitables, la limitation des cumuls dans le temps. Voilà. Mais tant qu'on aura une vision pointilliste, c'est-à-dire par seulement accumulation de petites mesures, certes louables, je pense que on passera certes pour fracturer l'espèce de porte blindée que nous avons devant nous, qui est celle du secret qui cache les turpitudes, nous passerons pour la fracturer du plumeau au burin. C'est bien, voilà, c'est bien, c'est une évolution souhaitable. Pardonnez-moi l'expression, l'image, mais quand on passe de la préhistoire au Moyen-Âge, on évolue, c'est certain. Mais je dis pas qu'on est dans le Moyen-Âge de ce point de vue-là, encore que, hein, à certains égards, je crois que nous sommes très arriérés en France et la culture française vis-à-vis de ces questions, car il faut bien prendre la mesure de la situation qui est la nôtre. On a souvent l'habitude de se moquer des autres pays. Je pense que c'est pour se consoler d'être nous-mêmes. Je ne vais pas faire un inventaire à la Prévert, mais je suis venu simplement avec quelques noms qui montrent le constat et l'enjeu de la réforme qui nous attend. Aujourd'hui, en France, nous avons un ancien président de la République qui s'appelle Jacques Chirac, qui a été condamné. Nous avons son successeur qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui est mis en examen dans 2 dossiers, dont l'un des deux, il est renvoyé devant le tribunal et menacé par une affaire considérable qui s'appelle l'affaire des financements libyens. Nous avons 30 de ses proches qui sont mis en examen ou condamnés dans des affaires de corruption. Parmi eux, il y a l'ancien chef des services secrets, des avocats, des ministres, Madame Lagarde, présidente du FMI, condamnée par un tribunal d'exception pour les politiques qui s'appelle la Cour de justice de la République, qui n'est toujours pas supprimé malgré les promesses, des conseillers, des hommes d'affaires, des députés. Nous avions M. Cahuzac, chargé de lutter contre la fraude fiscale, qui était un fraudeur fiscal. M. Thévenoud, M. Leroux, ministre de l'Intérieur, hein, pour dire que la gauche n'a pas par principe, le monopole de la morale. Nous avons aussi Monsieur Fillon, ancien Premier ministre de Monsieur Sarkozy, qui est pris dans l'affaire, ou pour terminer cette longue, ce long inventaire, le Front National, qui se repaît du vieux concept paternel de Madame Le Pen, tête haute, main propre, qui est peut-être le parti le plus cerné par la justice anticorruption. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres grandes démocraties libérales, libérales au sens politique du terme, qui peut s'enorgueillir d'un tel constat. Donc moi, je veux bien qu'on parle, et on a raison de le faire, de la limitation du cumul des mandats dans le temps, etc. Mais là, on est face à un problème, j'assume mon propos, qui relève d'un problème de civilisation. C'est-à-dire que la lutte contre la corruption et tous ses dérivés, c'est aussi important que la lutte contre le chômage ou les déficits publics. Et c'est parfois même lié.
Ce qui veut dire que là, effectivement, limiter les mandats à 2 ou à 3, pas mesurette, vous le dites pas comme ça, mais c'est pas une priorité. Thierry Mondon.
C'est probablement nécessaire, mais on ne peut pas prétendre qu'on a moralisé la vie publique parce qu'on a interdit aux élus de faire plus de 3 mandats. La tâche est un peu plus importante que ça.
Jean-Claude nous attend au standard. Bonsoir Jean-Claude, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir, vous m'entendez ?
Oui, parfaitement.
Oui. Donc, moi je suis un ancien élu, un ancien maire d'une petite commune de 100 habitants. Et je me suis arrêté au bout du 3e mandat parce que j'estimais qu'il fallait laisser la place à d'autres. Et je suis contre le fait qu'il n'y a pas de limitation dans le temps de mandat. Donc ce que je demande aux autres, je me le suis appliqué à moi-même. Voilà, ça c'est la première chose. Et je trouve inadmissible de la part d'un élu LR hier qui parlait de démagogie en parlant du cumul. Parce que il est évident que tous les citoyens demandent vraiment une moralisation là au niveau des mandats. Et moi, là, donc la question que je voulais vous poser, parce que je ne comprends pas trop au niveau de la future loi sur le cumul, est-ce que ça touche aussi dans le monde rural ce que je peux appeler le cumul horizontal entre maires, conseillers régionaux, conseillers départementaux, avec toutes les commissions, responsables aussi de l'office HLM. Enfin, il y a beaucoup, il y a un cumul fort dans le monde rural où c'est qu'une élite, entre guillemets, qui gère tous les départements et toutes les communes, tout du moins grosses, sans aucun renouvellement.
Merci Jean-Claude, on va essayer de vous répondre. Thierry Mondon.
Alors, d'abord, on parle d'un projet de loi qu'on ne connaît pas, qui est en train d'être préparé par le ministre de la Justice François Bayrou. Et ce dont on parle beaucoup, ce sont des propositions d'un député, célèbre d'ailleurs dans ses combats pour une moralisation de la vie publique, qui s'appelle René Dosière. À ma connaissance, il n'a pas proposé dans ce document de règles nouvelles sur les cumuls des mandats ou fonctions locales. Il faut savoir qu'un certain nombre de règles ont été posées ces dernières années, notamment qui interdisent à un maire d'être conseiller général, conseiller départemental maintenant, et conseiller régional. Il est vrai que c'est plutôt embêtant pour les communes moyennes que ces cumuls de 2 fonctions peuvent être accompagnés de responsabilités dans plein de syndicats intercommunaux. Donc il y a probablement des choses à regarder. Il serait bon d'en faire l'analyse précise d'abord avant de se précipiter. Mais je n'ai pas le sentiment que ce soit l'objet de ce texte de loi.
Fabrice Arfi, sur ce que notre auditeur Jean-Claude appelle le cumul horizontal.
Oui, c'est un problème. C'est comme ça qu'à l'échelle des collectivités locales notamment, on crée des potentats, on crée des baronnies dont la France souffre terriblement. Nous avons une France des baronnies qui existe avec des élus locaux qui, à force de cumuler verticalement dans le temps un certain nombre de mandats et horizontalement un certain nombre de fonctions où ils sont à la fois à la tête de l'hôpital, de l'opéra, de tout un tas de syndicats, des eaux, des forêts, de je sais pas quoi. Il y en a, je crois que je sais plus lequel élu, cumulé jusqu'à 27 fonctions et mandats. Je sais pas si vous imaginez, ces journées ne font que 24 heures à lui aussi. Donc ça ne peut créer que des liens d'intérêt et conflictuels avec l'esprit public, avec l'esprit d'éthique, qu'il faut évidemment analyser de près avant de trancher et de légiférer. Par rapport à la première intervention de ce dernier auditeur, il a dénoncé le propos d'un élu qui disait les Républicains, mais d'autres à gauche le disent aussi, oui mais tout ça sur le cumul ou même la transparence, c'est démagogique. Bon, en effet, c'est scandaleux d'entendre ça, parce que sincèrement, fonde un peu plus de moralisation dans la vie publique, un peu plus d'éthique, un peu plus de transparence pour réutiliser ce terme, ce sont les gens raisonnables, ce sont des gens sages. Pour moi, les gens subversifs, ce sont ceux que j'ai cités tout à l'heure. Ce sont les Sarkozy, ce sont les Dassault, les Balkany, les Cahuzac. Ce sont les Fillon, ce sont ceux qui pensent qu'on peut embaucher son épouse ou son conjoint, peu importe, pour ne pas travailler à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, nous avions raconté à Mediapart, sous la plume de Mathilde Mathieu, que Bruno Le Maire s'était retrouvé il y a quelques années dans une petite affaire Pénélope Fillon. Hein, avec sa femme, artiste peintre, qui a été rémunérée pendant des années comme son assistante parlementaire, alors qu'elle a dit elle-même qu'elle n'avait jamais travaillé au service de son époux. Bon, je suis pas pour la mort du pêcheur, c'est pas mon propos, mais attention, voilà, on y compris dans un gouvernement qui se fait fort de cette moralisation de la vie publique, bon, la question se pose pour, y compris parmi les plus hauts ministres de ce gouvernement.
On s'arrête précisément sur cette question d'embaucher ou pas un membre de sa famille. Bonsoir Elisabeth, vous nous appelez de Nantes, nous vous écoutons.
Bonsoir. Alors, bon, personnellement, je suis d'accord avec la majorité des idées qu'on commence à connaître de la loi de cette moralisation, mais moi je suis pour que les députés puissent continuer à embaucher un membre de leur famille. Parce que déjà, quand on se connaît entre père et fils, et que ça fait des années qu'on parle politique, le binôme peut extrêmement bien fonctionner, car on se connaît très bien. Et plutôt que de travailler avec avec un consultant, les assistants qui seraient pistonnés par un de leurs copains ou même cooptés, mais où le binôme pourrait se faire moins bien. Le piston étant évidemment la pire des choses. Et à partir du moment où on vérifie comme il faut si la personne, si l'assistant travaille réellement, s'il est réellement présent, s'il fait effectivement des rapports qui sont intéressants, je ne vois pas pourquoi on empêcherait un père de travailler avec son fils ou sa fille ou avec son épouse.
Donc c'est d'abord la compétence et l'efficacité du membre ou pas ?
Évidemment. Évidemment. Et ensuite, bon, il faut aussi vérifier que cette personne, cet assistant ne soit pas plus rémunéré que les autres assistants de la même équipe. Mais pour moi, au contraire, c'est très très judicieux quand les personnes se connaissent très bien et sont sur la même longueur d'onde. Pour moi, ça facilite le travail et ça facilite aussi l'analyse, en tous les cas pour quelqu'un qui porte la parole de son parti. Et donc, voilà, je ne suis pas d'accord.
Eh bien, merci voilà. Elisabeth, et vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord. D'accord. Avant de vous passer la parole, Fabrice Arfi, je joins au témoignage, enfin au point de vue d'Elisabeth, ce mail de Nicole. Si les députés ne peuvent plus embaucher des membres de leur famille, rien ne les empêchera d'embaucher la famille du député copain qui lui renverra l'ascenseur.
Bien sûr, ça existe, ça s'appelle les emplois Fabrice croisés. Ouais. Ça s'appelle les emplois croisés, il y en a plein en Parlement déjà. Hein. On embauche l'épouse, ou je dis l'épouse parce que bon, c'est souvent comme ça que ça se passe malheureusement dans une société machiste et sexiste, du député d'à côté qui part en emploi croisé, embauche votre enfant, etc. Tout ça existe en réalité déjà. C'est très intéressant ce que dit l'auditrice, parce que moi je comprends ce qu'elle dit. Évidemment, dans des entreprises privées, il peut y avoir des membres de la famille qui travaillent, et pourquoi pas au Parlement. La première question qui est posée, c'est celle de la réalité du travail fourni. Voilà. Même pas de la compétence. On peut embaucher des gens incompétents, on a le droit hein, aussi. Mais d'abord, il peut y avoir des incompétents qui travaillent. Bon, la question, c'est d'abord de la réalité du travail. Bon, à l'échelle européenne, par exemple, le Parlement européen proscrit tout emploi familial parce qu'il considère que c'est la meilleure façon de lutter contre des éventuelles dérives. Je comprends qu'on puisse dire, comme notre auditrice, bon, pourquoi on ferait pas travailler ? Bon, après. C'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on est forcément d'accord. Et c'est le piston familial existe aussi. Donc la petite nuance avec le témoignage de l'auditrice. Mais si on accepte que des membres de la famille puissent travailler au service d'un député, ou d'un parlementaire ou d'un sénateur, ça pose une autre question. C'est la question du contrôle. Et la démocratie, c'est la démocratie du contrôle. Hein, on va pas citer, mais que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est comme ça qu'on s'est, l'esprit des lois, Montesquieu, c'est comme ça qu'on s'est construit, que notre nation s'est construite. Et nous souffrons, la démocratie française, d'un manque de contrôle. Pourquoi pas qu'on ait des gens de la même famille qui travaillent au service d'un parlementaire ? Encore faut-il contrôler l'effectivité du travail. De la même manière, il y a un scandale parlementaire incroyable, c'est les notes de frais des parlementaires en France. Chaque parlementaire a plusieurs enveloppes par mois. Son indemnité, son salaire, et une enveloppe de notes de frais qui s'appelle l'IRFM, l'indemnité de représentation de frais de mandat. C'est ça n'est pas contrôlé, ça n'est même pas fiscalisé.
C'est une opacité totale.
Oui, donc ils font ce qu'ils veulent avec. Personne n'a le moindre droit de regard là-dessus. S'ils veulent se reverser dans leur poche leur note de frais, qui est pour l'Assemblée nationale, je crois que c'est 6 000 euros net par mois, ils peuvent. S'ils veulent filer l'argent à des proches ou s'acheter des tableaux, des voitures, peu importe, des choses qui n'ont rien à voir avec le périmètre de leur fonction parlementaire, ils peuvent. Donc là, on est, encore une fois, dans un déficit du contrôle. Et moi, je suis pour le contrôle, qui est la meilleure façon d'empêcher les dérives.
Thierry Mandon, avant de revenir précisément à cette notion de contrôle, comment recevez-vous la position d'Elisabeth ?
Sur les règles en général, et sur la capacité d'embaucher quelqu'un de sa famille. D'abord, Fabrice Arfi avait raison de rappeler que cette règle existe à l'étranger, notamment en Europe, au Parlement européen, mais pas seulement, hein, dans les démocraties nordiques qu'on cite souvent. C'est une règle qui est assez...
Suède notamment.
Commune. Et je pense que c'est une règle qui me semble saine, dans la mesure où, avant, non seulement qu'on puisse contrôler la réalité des travails, mais je veux dire que là, on est vraiment dans la mission impossible. Donc je pense que cette règle...
Pourquoi mission impossible ?
Mais parce que comment voulez-vous ? Moi, j'ai eu des assistantes qui se trouvent ne pas être de ma famille, un assistant et une assistante. C'est extrêmement difficile. Alors, il y a les échanges de mails, mais c'est extrêmement difficile de contrôler la réalité du travail. Et d'ailleurs, tout ça pose une question derrière. C'est que les règles les plus sophistiquées possibles, et Dieu sait s'il en faut plus, mais ne préviendront jamais la totalité des situations que l'imagination humaine est capable de trouver pour contourner les règles. Et donc une vie publique moralisée, c'est une vie qui a des règles plus strictes, mais ça dispense pas d'éthique individuelle des élus.
Et ça, on comprend bien.
Non, mais et donc de la nécessité de la transparence et de la publicité sur les pratiques des uns et des autres.
Sur la question des contrôles, alors, qui va contrôler ? Qui ? On fera comment ? Quels seront les moyens ?
L'IRFM, c'est très facile. Sur l'indemnité dont parlait Fabrice Arfi, c'est très facile à faire. On peut s'étonner d'ailleurs que ça n'ait pas été fait avant. Certains parlementaires publient la façon dont ils dépensent leur indemnité. Non, c'est pas vrai. Il y en a. Moi, je l'avais fait. C'est des indemnités qui servent à payer des permanences. Enfin, vous pouvez tout à fait publier l'usage que vous faites de ces sommes. Et il est facile de mettre en place des systèmes à l'Assemblée nationale de contrôle des entrées-sorties de ces dépenses-là. C'est d'ailleurs, je crois, une des propositions que fait René Dosière dans les 12 propositions qui vont peut-être inspirer François Bayrou.
Fabrice Arfi.
Un exemple, le Parlement britannique. Le Parlement britannique, en fait, les députés amènent des factures à l'administration centrale du Parlement qui décide de rembourser au nom les factures qu'on lui présente. Il y a eu un énorme scandale des notes de frais au Parlement britannique parce qu'on a découvert que le Parlement lui-même remboursait tout et n'importe quoi. Bon, mais il y avait déjà une forme de contrôle. Et si l'affaire est sortie dans la presse, c'est parce que précisément, il y en a au sein de l'administration centrale qui étaient scandalisés de voir que le Parlement britannique dilapidait de l'argent public pour rembourser des frais qui n'avaient rien à voir avec le mandat des députés. Pas compliqué de faire ça. On pourrait dire que chaque député peut se faire rembourser à concurrence de 6 000 euros net par mois des notes de frais sur présentation de factures à condition que cela démontre...
On se dit que c'est simple, c'est du bon sens. Alors pourquoi cela n'a-t-il pas été fait?
Parce qu'il y a des phénomènes...
Il y a des réticences, il y a des freins.
Bien sûr, il y a des phénomènes d'autoprotection qui existe également, malheureusement, au sein de la classe politique, qui n'en fait pas une classe politique pourrie, pas du tout, mais il y a des phénomènes de réticence à légiférer sur soi-même. Et là, on est dans des circonstances extrêmement compliquées, de la même manière qu'il a fallu des années pour que les députés n'aient plus des prêts immobiliers à taux zéro, ou des retraites extravagantes, alors qu'on demandait à tous les autres citoyens des efforts. Vous voyez ? Donc ça existe aussi, ce phénomène corporatiste entre guillemets, qu'on peut reprocher à d'autres, il existe également dans la classe parlementaire.
Je ne voudrais pas défendre mes collègues, dont certains correspondent parfaitement au profil opaque qui vient d'être tracé, mais pour avoir exercé deux fois un mandat parlementaire, une première fois il y a quelques années, et puis donc c'est dans le dernier quinquennat pour la seconde fois, j'ai quand même le sentiment que malgré la résistance d'un certain nombre de dinosaures à cette transparence et le soutien à tout ce qui peut être opaque, les choses bougent avec le renouvellement des générations.
Un effet générationnel.
Si je prends deux exemples de choses qui n'étaient pas normales, la première, c'est donc l'usage fait de cette indemnité de représentative des frais de mandat, ou la seconde sur quelque chose qui, de mon point de vue, est obsolète, mais enfin qui existe encore, qui s'appelle la réserve parlementaire, oui. C'est-à-dire la somme d'argent que le parlementaire peut distribuer à sa circonscription. Il y a un certain nombre d'élus qui cachent tout ça, mais des élus, de plus en plus nombreux, l'ont publié, l'ont rendu eux-mêmes, sans qu'ils n'en soient obligés, transparente. Donc, je veux dire que les mœurs évoluent trop lentement, des règles supplémentaires sont nécessaires, mais encore une fois, c'est pas tous pourris. Les parlementaires sont pas systématiquement opaques et ne souhaitent pas forcément tous cacher les règles et les pratiques qu'ils utilisent.
On retourne au standard. Bonsoir Marie-Sylvaine, nous vous écoutons.
Bonsoir, bonsoir. Je suis très satisfaite que cette question arrive sur le tapis. En même temps, je m'inquiète parce que je me dis que c'est un sacré chantier. Et bon, on commence par les députés, les parlementaires et tout ce qu'on appelle le fonctionnement horizontal, là, dans les... J'ai bien aimé le mot. Mais moi, je m'interroge à plus haut niveau, au niveau du gouvernement. Quand je vois, par exemple, monsieur le Premier ministre qui a été maire du Havre après avoir été employé chez Areva, on voit bien que, quelque part, la notion de conflit d'intérêt, elle est peut-être difficile à cerner. Alors, on peut arriver peut-être à faire en sorte que quelqu'un ne cumule pas deux fonctions dans le même temps, mais est-ce qu'on va pouvoir arriver à faire en sorte que un directeur de cabinet du ministre de l'Énergie n'aille pas pantoufler chez Engie, par exemple, ou réciproquement qu'un directeur de la téléphonie ne soit pas nommé à l'énergie. Souvent dans ces postes-là, énergie, la téléphonie et tout ça, on voit plein de circulation, d'aller-retour de conseillers, de secrétaires, de commissions qui vont dans un sens et dans l'autre. Et évidemment, ils profitent d'un carnet d'adresses.
Mais est-ce qu'en même temps, Marie-Sylvaine, oui. On peut imaginer qu'un homme politique ne fasse pas de la politique toute sa vie et qu'il y ait du coup des allers-retours entre le privé et le public? Ça, oui. c'est une démarche compréhensible.
C'est compréhensible, mais néanmoins, ça devrait être complètement public, parce que c'est quand même lourd de sens au niveau de ce que peut faire un parlementaire ou un ministre pour favoriser soit des lois, soit des programmes. Et je pense par exemple au déploiement des compteurs communicants. Et quand sa fonction est terminée, hop, il va disparaître chez, justement, je vous dis, la téléphonie, l'énergie, et dans ces coins-là. Il me semble que là, il y a comme un retour de monnaie sur ce qu'il a fait en tant que politique.
Merci Marie-Sylvaine. Fabrice Harvy, sur ces conflits d'intérêts, le pantouflage, les allers-retours.
C'est fondamental, elle a tout à fait raison. Bien sûr, d'un côté, il faut toujours sur ces questions, comme sur toutes les questions d'ailleurs, tenir les deux bouts de la réflexion. Bien sûr, vous avez raison de dire qu'on peut aller du privé au public, c'est pas interdit, c'est même pas en soi éthiquement scandaleux. En revanche, ce phénomène permanent d'aller-retour qui existe, parce qu'il y a des fumées oligarchiques qui existent dans notre démocratie, qu'on le veuille ou non, hein, qui permettent à ce que des grandes entreprises placent des gens à eux dans des cabinets ministériels, qui reviennent ensuite dans les grandes entreprises, ou qu'on voit, par exemple, c'était sous la présidence Sarkozy, un secrétaire général adjoint de l'Élysée, François Pérol, qui a promulgué, qui a travaillé sur une grande réforme bancaire, et notamment la fusion de deux banques, Caisse d'Épargne, et qui devient ensuite le président du groupe dont il a été intellectuellement celui qu'il a façonné quand il était à la présidence de la République. C'est un problème, au point que même que la commission...
Poursuivi, je crois d'ailleurs, ça.
Pardon ?
Il y a eu des plaintes.
Il y a eu des plaintes, il a été relaxé, il faut le dire, mais ça n'enlève pas l'absence
le
de condamnation.
La suspicion,
ouais. Oui, et puis le problème éthique, hein, tout se sépare pas entre légal et illégal, et d'ailleurs il y aura un procès en appel là-dessus, puisqu'un juge avait estimé qu'il devait être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ces faits-là, mais la commission de déontologie avait dit mais c'est pas possible, il y avait même des membres qui avaient voulu démissionner tellement le cas était pendable. Donc bien sûr la question se pose, de la même manière que la question se pose par exemple sur les parlementaires qui sont des avocats d'affaires. On a eu un cas très spécifique en France qui est celui de Jean-François Copé. Jean-François Copé a été à main gauche le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle sous Nicolas Sarkozy, en même temps qu'il était avocat dans le plus grand cabinet d'affaires de la place parisienne. Moi, je suis pour le secret professionnel des avocats, évidemment. Mais je serais pour une exception dans un cas pareil. Soit on interdit le cumul de ces professions, soit on dit, alors là, c'est pas possible. Il faut savoir, monsieur Copé, qui sont vos clients en tant qu'avocat d'affaires, pour savoir si vous qui façonnez la loi au Parlement, vous ne faites pas des lois qui profitent aux intérêts privés de vos clients. Ça, il faut la transparence là-dessus, ou alors on interdit le cumul des fonctions.
Thierry Mondon, sur cette question précise.
Trois choses. D'abord, dans les propositions à l'étude aujourd'hui, il y a l'interdiction, justement, pour un parlementaire, et c'est légitime.
Des fonctions de conseil.
C'est du fait du belle lurette, des fonctions de conseil, des fonctions d'avocat d'affaires. Donc, je ne sais pas si François Bayrou reprendra cette proposition, mais elle me semble de bon sens. Deuxièmement, la publicité des parcours d'un élu, là aussi, public et privé, me semble indispensable. D'ailleurs, ces déclarations figurent dans ce que, en début de mandat, nous sommes obligés désormais de faire auprès de la Haute Autorité de la Transparence pour la Vie Publique, et la publicité de ces déclarations me semble indispensable. En même temps, il faut faire attention aux contradictions qui peuvent exister, car on nous explique aujourd'hui que pour régénérer la vie publique, il faut faire appel à la société civile. Mais enfin, que je sache, la société civile, si ce concept veut dire quelque chose, c'est des gens qui, pour l'instant, font pas de politique, donc ils travaillent, pour un bon nombre d'entre eux, et donc ils vont devenir élus. Donc, vous voyez, c'est compliqué d'interdire des parcours qui
mais est-ce qu'il n'y a pas, certaines professions qu'on pourrait écarter le temps d'un mandat? C'est une question que pose Loïc Parmeil.
Mais c'est exactement ce qui va se passer pour les avocats et les sociétés de conseil. Il y a une troisième chose, je voudrais dire. C'est pour ça que je trouve que je comprends qu'on veut y aller vite, parce qu'il y a de l'émotion. Mais ça vaut toujours la peine de réfléchir avant de légiférer. Toujours la peine. Et bon, très bien, il y a un volet 1 avant les législatives. Mais il pourrait y avoir un volet 2 après les législatives. Absolument. Notamment pour ce qui est de la haute fonction publique. Parce que moi, je vais vous dire, pour le coup, et je ne citerai personne pour gêner personne, mais quand même, j'ai vu, il y a une sorte de commission de déontologie qui doit autoriser des fonctionnaires à partir ou pas dans telle ou telle entreprise privée. J'ai vu des aberrations telles ces dernières années que je me dis que ça vaudrait aussi la peine si on veut...
Exemple.
Il y avait tel directeur de Bercy, voilà, qui va monter un fonds d'investissement chinois. Voilà. Je ne comprends pas comment une commission de déontologie peut donner un avis favorable à ce type de... Donc je crois que c'est un sujet sérieux, la moralisation de la vie publique. Il s'agit de jeter l'opprobre à personne, les individus. Mais des règles, c'est pas seulement les parlementaires qui seraient les moutons noirs et qui, une fois qu'on les avait, voilà, on aurait réglé le problème. Faudrait pas que l'arbre cache, ce qui est peut-être pas une forêt, mais au moins une clairière.
On comprend bien, Fabrice Arfi.
Moi, je souscris à l'idée selon laquelle aller vite n'est pas un bon signe. Moi, je ne comprends pas qu'il faille aller vite pour des questions pareilles. Et d'ailleurs, si nous regardons depuis les années 80 à peu près que la chronique française est fracassée par le bruit des affaires, toutes les lois et décrets qui ont été pris pour la moralisation de la vie publique ont été pris dans l'urgence. Ont été pris non seulement dans l'urgence, mais consécutivement à l'éclatement d'un scandale. Parce qu'il y avait l'épée de l'émotion publique dans les reins du pouvoir politique qui se disait « Ouh là là, il faut calmer ce bon peuple qui s'énerve ». Et on fait des lois, on les fait vite, on les fait mal.
12 depuis 93.
12 depuis 93 et à peu près une quinzaine depuis les premières affaires des années 80 de financement politique et de grandes affaires de corruption. Je vous donne un exemple. C'est incroyable, c'est hallucinant qu'il ait fallu l'affaire Cahuzac, révélée par un petit journal, en l'occurrence Mediapart, pour qu'on réfléchisse à la création d'une haute autorité pour la vie, pour la transparence de la vie publique, qui est très bien.
Il manque un peu de moyens, d'ailleurs.
Mais qui manque considérablement de moyens. Qu'il ait fallu l'affaire Cahuzac pour créer le parquet national financier, pour qu'il y ait des nouvelles lois sur la transparence et la lutte contre la fraude fiscale, ou qu'on renforce les moyens policiers dans la lutte contre la corruption et la fraude fiscale, moyens qu'ils n'ont plus du tout aujourd'hui. Ça n'est pas un programme politique. La moralisation de la vie publique. Là, on a des mesures. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'affaire Fillon. Pourquoi on dit on n'embauche plus sa femme ? Parce qu'il y a eu l'affaire Fillon. Bon, et donc là, on est dans un déficit culturel français, politique, institutionnel, qui est, je trouve, très inquiétant en ce que nous n'arrivons pas à considérer, encore une fois, la lutte contre la corruption et tous ses dérivés comme un problème au cœur de la démocratie et pas à la marge. C'est pas du spectacle, c'est pas du tir au pigeon. Ce dont nous parlons, c'est de notre rapport à la démocratie et surtout, peut-être, de notre argent.
Thierry Mondon, le gouvernement veut aller trop vite ?
Moi, je trouve qu'il va très vite, avant les législatives, très bien. On voit bien, il y a une urgence, une situation de présidentielle qui a été particulière. Je crois que ce sujet est suffisamment sérieux pour qu'on y réfléchisse vraiment, qu'on prenne les questions de vie publique en général, et qu'on essaie de faire une loi qui pourrait rester quelques années sans qu'on la retouche. Parce que une loi sur la moralisation tous les 2 ans, ou 3 ans, je crois qu'à un moment, il faut arrêter, il faut être sérieux. Et puis, on devrait par ailleurs vraiment regarder ce qui se passe à l'étranger. Parce que des dispositifs, ils existent.
Il y a énormément d'auditeurs partout, qui nous citent l'exemple suédois
l'exemple suédois, il y a aussi une culture transparence politique. Transparence absolue. Parfois, tout n'est pas transposable. Mais regardons vraiment ce qui marche à l'étranger, avant que de légiférer trop vite pour répondre à une urgence. Ça vaut la peine de prendre
bon
ces sujets
partout.
Au sérieux.
Il ne s'agit pas d'épouser totalement un modèle. Mais il y a du bon à prendre aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, évidemment dans les pays scandinaves. Et moi, je crois très fort à ça. Pourquoi il n'y aurait pas un haut commissariat pour tout cela en France, qui irait s'inspirer de ce qui se passe ailleurs pour le transposer lentement, mais solidement dans notre culture française? Vous savez, moi, j'ai toujours considéré que les affaires, c'était comme dans l'automobile. Avant de mettre une voiture sur le marché, on fait des crash tests. C'est-à-dire qu'on envoie la voiture contre un mur pour voir si la carrosserie est solide. Ben pour moi, les affaires, c'est ça. Ça nous permet de voir si la carrosserie de notre République est solide.
Un dernier auditeur qui appelle à l'instant. Bonsoir, José Beauvais, nous vous écoutons.
Bonsoir. Écoutez, moi je vous appelle pour quelque chose de très simple. Quand tous les canaux de la démocratie sont bouchés, il ne reste qu'une solution aux citoyens, c'est de désobéir. Et c'est ce que j'ai fait notamment pour les OGM, où j'ai été condamné à de multiples reprises. Or, évidemment, depuis, grâce, je pense, à toutes les actions des pêcheurs volontaires, il n'y a plus d'OGM sur le territoire français. Mais j'ai été condamné. Et si cette loi qui dit qu'il faut avoir un casier judiciaire vierge pour se présenter était passé à l'époque, eh bien, je n'aurais pas pu être élu en 2009 au Parlement européen, ni en 2014 pour un deuxième mandat, qui sera d'ailleurs, évidemment, mon dernier mandat. Donc, la question se pose sur est-ce qu'on n'est pas démagogique quand on dit qu'il faut avoir un casier judiciaire vierge, parce qu'on mélange ce qui peut être de l'action citoyenne avec en même temps ce qui est effectivement tout à fait condamnable, qui sont les affaires Cahuzac ou d'autres. Et donc, effectivement, par rapport à ça, il faut avoir une clairvoyance, mais dire qu'il faut un casier judiciaire vierge, ça veut dire que beaucoup de gens qui ont à un moment agi dans l'intérêt général, qu'ils soient lanceurs d'alerte ou autres, eh bien, pourraient se retrouver demain interdits de continuer cette action dans le cadre parlementaire, que ce soit au niveau national ou européen.
Merci José Beauvais, je suis navré, je suis obligé de vous couper. Brièvement, Fabrice Arfi.
La clairvoyance dont parle José Beauvais est très simple à trouver. Il suffit de parler d'un casier judiciaire vierge concernant des délits d'atteinte à la probité. Voilà. Évidemment que quelqu'un qui a fait des délits routiers ou autre chose, ça doit pas forcément l'empêcher d'avoir un mandat parlementaire ou autre.
Thierry Rondon, 10 secondes.
Oui, 10 secondes. On a parlé de combat pour la moralisation de la vie publique pour des raisons entre guillemets morales, de morale publique, mais aussi pour des raisons politiques. Parce que de quoi il s'agit? Il s'agit simplement de la force corrosive de l'argent. Ce dont on parle, ça n'est que ça, et qu'on s'attaque aux effets de cette force corrosive, ça me semble vraiment un beau combat politique.
Merci infiniment à tous les deux. Thierry Mondon, ancien secrétaire d'État à l'enseignement supérieur à la recherche, et Fabrice Arfi, journaliste responsable du pôle enquête à Mediapart. Dans moins de 30 secondes, un nouveau journal sur Inter.